Méditation du rosaire dans l'esprit de la Vierge Marie. Et tous ceux qui entendirent les paroles des bergers au sujet de cet enfant s'étonnèrent de leurs paroles. Mais Marie retenait toutes ces paroles, les méditant dans son cœur. Évangile de Luc 2, 18. Marie se trahit dans ses paroles et se livre tout entière. Elle est à l'affût des paroles et des gestes de Dieu. Elle les médite en son cœur pour agir. Comme Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, ainsi devons-nous fixer dans les nôtres ces gestes de la Vierge. Ils forment notre pays surnaturel, cette sphère spirituelle où nous rentrons, la méditation du rosaire. À nous de méditer tout l'Évangile dans cet esprit réaliste, comme notre mère. Essayons. Et elle enfanta son fils premier-né, et l'enveloppa de l'ange. Elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Évangile de Luc 2, 7. La présentation au temple. Les mystères du rosaire. Marie, son amour et sa souffrance. Et lorsque fut accompli le temps de leur purification, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour l'offrir au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, que tout enfant mâle, sorti le premier du sein maternel, sera regardé comme consacré au Seigneur, et pour donner en sacrifice, selon ce qu'il est dit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou deux jeunes colombes. Évangile de Luc 2, 22 à 24. Marie, l'unique aux yeux de Dieu, la pleine de grâce, dans un geste spontané, porte son enfant à Jérusalem avec Joseph. Geste de reconnaissance, qui sait trouver l'amour sous les prescriptions légales. Marie ne veut aucune exception pour elle. Elle connaît parfaitement la loi et s'y soumet, car pour elle, toute la volonté de Dieu s'y exprime. Jésus, le Fils de l'homme, s'enracine dans notre terre. Il est bien l'un de ses premiers-nés qui ouvre les seins maternels comme la plus grande des bénédictions divines que l'on offre au Seigneur et que l'on rachète symboliquement avec une paire de tourterelles ou des colombes. Les paroles de Siméon que la Vierge Marie nous rapporte trahissent son âme. Car si le chant du vieillard Siméon s'est gravé dans son cœur, au point qu'elle a pu en transcrire les strophes à Luc, c'est bien parce que sa description du Sauveur répond à son attente. Et l'on comprend la fierté de cette mère à l'écoute des paroles étranges et mystérieuses au sujet de son Fils. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Évangile de Luc 2, 32. Et Siméon bénit les parents de Jésus et dit à Marie, sa mère, « Voici qu'il est placé pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël et pour être un signe en but à la contradiction. Et ton âme, et toi aussi, sera transpercée d'un glaive. Tout cela afin que soient découvertes les pensées d'un grand nombre de cœurs. » Évangile de Luc 2, 34 à 35. Mystérieuse influence de la Vierge dans les mystères de notre rédemption. La voici pleinement associée à l'action du Sauveur, ce salut annoncé à toutes les nations. Siméon la voit déjà jouant un rôle de premier plan aux côtés de son Fils. Sa souffrance est déjà regardée comme source de salut et la croix la base de son action. Jésus reste un signe de contradiction. On le regarde toujours comme un imposteur, même si on lui jette des fleurs. L'orgueil de l'homme rationaliste ne peut admettre ce salut venu du transcendant. Lui seul, scientifiquement, se doit d'organiser l'évolution de l'histoire de l'homme. Et pourtant, il y a des millions d'hommes et de femmes qui ont accepté le signe venu de Dieu. Ceux-là regardent Jésus comme la lumière des nations, et font que les petits, les pauvres, victimes des systèmes économiques et politiques, reçoivent par lui un peu de clarté et de la tendresse du Père. Mystère du rosaire, la présentation de Jésus au temple. Siméon. En réalisant l'événement de la présentation au temple, nous avons l'impression d'entrer dans un pays nouveau, dans le monde surnaturel, loin de notre monde rationaliste. Toute cette magnifique page sur Siméon ne reste compréhensible que pour celui qui pénètre dans la sphère du rosaire. Là, l'action de l'Esprit-Saint est un fait courant de notre pays surnaturel. Et l'Esprit-Saint reposait sur lui, et lui avait été révélé par l'Esprit-Saint qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il n'eût vu le Christ Seigneur. Et il vint au temple conduit par l'Esprit. Évangile de Luc 2, 25 à 27. Siméon, l'homme habité par l'Esprit, la largeur même de l'horizon divin. Il se réjouit du salut de tous les peuples, de la lumière donnée à toutes les nations. Il en ressent au cœur l'immense honneur fait au peuple d'Israël et la gloire qui réjaillit sur lui. Et comme elle est belle et profonde cette joie de Siméon, serrant dans ses bras son Sauveur, on sent dans ses paroles toute la fierté d'Israël et la splendeur spirituelle de celui qui l'attend. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Évangile de Luc 2, 32. Pour Siméon, rien ne compte, rien ne l'intéresse que le salut d'Israël et du monde. Siméon possède l'absolu du royaume des dieux. Sa vie est comblée parce qu'il a vu se réaliser les plans des dieux. Seule cette richesse initiale et fondamentale l'intéresse. Maintenant, tu laisses aller ton serviteur, maître, en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Évangile de Luc 2, 29 à 32. Encore une fois, cette espérance révélée par l'Esprit Saint à Siméon ne se rétrécit pas à son petit univers, mais révèle l'ampleur de la tendresse divine. N'est-ce pas là la première invitation lancée par Dieu à tous les hommes de venir participer aux noces de son Fils bien-aimé? Les mystères du rosaire. Joseph à l'écoute des dieux. Or, Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son astre à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Évangile de Matthieu 2, 1 à 2. Sa venue bouleverse nos vies et nous met en route. Tous mages qu'ils étaient, ces hommes venus d'Orient ont dû se tâter le pouls avant de partir pour courir après une étoile. Mais ils étaient poussés par cet espoir de rencontrer les grands rois qui transformeraient les cœurs et le monde. Le roi Hérode fut troublé. Alors Hérode, ayant fait appeler les mages secrètement, dit « Allez, enquérez-vous exactement de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, annoncez-le-moi, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Évangile de Matthieu 2, 3 à 7. La peur panique de perdre le pouvoir conduit directement au crime. Hérode agit avec astuce, ayant fait appeler les mages secrètement pour les cuisiner. Mais Dieu le déjoue tout simplement parce que Joseph, un pauvre charpentier, l'écoute dans la simplicité de son âme, au cœur de la nuit. Après que les mages se furent retirés, voici qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph disant « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et restez-y jusqu'à ce que je te donne avis, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Lui donc se leva, prit l'enfant et sa mère pendant la nuit et se retira en Égypte. Évangile de Matthieu 2, 13 à 14. L'Esprit du Seigneur conduit Joseph, et lui obéit sans rechigner aux suggestions ou aux ordres de Dieu. L'astuce d'Hérode et sa fourberie, tout cela s'effondre devant la simple union des cœurs entre Joseph et l'Esprit Saint. En pleine nuit, il se lève, prend l'enfant et sa mère, et fuit en Égypte. Son obéissance les sauve. Joseph, lui aussi, se meut dans le pays du surnaturel, dans le pays des dieux, où tombent les magnificences humaines. Les mystères du rosaire. Jésus perdu est retrouvé au temple. Et ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Évangile de Luc 2, 47. Marie, se confiant à Saint Luc, souligne, sans le vouloir, la piété des bonnes en loi de ce jeune couple qui chaque année allait à Jérusalem, la ville sainte, pour prier Dieu avec tout le peuple. L'histoire de Jésus perdu au temple nous fait saisir la souffrance morale d'un couple. On sent dans leur démarche et leurs paroles l'anxiété, l'inquiétude, les questionnements aussi devant la fugue inexplicable. Rien à voir avec les comportements habituels de Jésus. L'ont-ils bien élevé? D'où la question. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, fort en peine, nous te cherchons. » Évangile de Luc 2, 48. La réponse de l'enfant les déconcerte. Marie avoue simplement ne pas l'avoir comprise à ce moment-là. Relisons ensemble ce texte bouleversant pour des parents. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, fort en peine, nous te cherchions. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être auprès de mon père? » Et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Évangile de Luc 2, 48 à 50. Dans cette première parole du Seigneur, rapportée par sa mère, transparaît les mystères de son identité. Elle souligne cette parole la profondeur des rapports qui existent entre lui et son Père. Il s'affirme pour ce qu'il est, le Fils de Dieu, dans une phrase incompréhensible au premier abord, même pour sa mère, mais en même temps il se donne pour un Fils de l'homme, soumis à ses parents. Et il redescendit avec eux et vint à Nazareth. Il leur était soumis, et sa mère observait toutes ces choses dans son cœur. Évangile de Luc 2, 51. C'est la profondeur de sa foi et le travail de la grâce qui peu à peu éclaire Marie et lui permettent de comprendre le mystère de son fils. Car si elle avoue n'avoir pas compris sur le coup, dans une intuition surnaturelle, elle a conservé la phrase exacte de son fils, qui révèle pour la première fois au monde son identité. « Ne saviez-vous pas que je dois être auprès de mon Père ?» Évangile de Luc 2, 49. Sûrement Marie, la pleine de grâce, le savait, elle qui conservait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus grandissait en sagesse et en taille et en grâce auprès des dieux et des hommes. Évangile de Luc 2, 52. Là encore, sa mère, qui observait toutes ces choses dans son cœur, note que son fils grandissait en sagesse et en taille, comme tous les enfants des hommes. Elle souligne aussi qu'il aimait Dieu plus qu'un adolescent ordinaire, ce qui n'échappait pas aux hommes, ses concitoyens. Jésus est la liberté, Jésus est l'espérance. Jésus perdu au temple. Mystère du rosaire. Jésus est le maître de la liberté, de la vraie liberté, celle des fils du Père Céleste. Si les disciples de Jean admettent bien la réalité de notre dépendance filiale vis-à-vis de notre Père Céleste, ils doivent rejeter avec vigueur tout esclavage physique ou intellectuel de la part de quiconque. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, fort en peine, nous te cherchions. » Et il leur dit, « Ne saviez-vous pas que je dois être auprès de mon Père ?» Et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Évangile de Luc 2, 48 à 50. Jésus nous livre ici un exemple étonnant de liberté d'esprit et de comportement. La tradition nous a laissé l'image d'un enfant Jésus sage et obéissant. Il l'était, mais pas au-delà de l'autonomie de l'être humain. Dans les domaines des relations avec le Père éternel, par exemple, l'homme ne passe pas par les contrôles familiales. Pas plus d'ailleurs qu'en ce domaine, l'homme ne devrait subir les contrôles de l'État ou le poids du pouvoir. C'est le fondement de la liberté foncière de l'homme dans les domaines de la pensée et de la religion que Jésus affirme ici dans son escapade. Le chrétien, à sa suite, ne peut accepter l'emprise d'une quelconque autorité humaine dans tous les domaines de la pensée. Nul homme ne peut imposer son diktat. Le pouvoir, en particulier, n'a pas de mission en ces domaines, sauf celle qu'il usurpe aux familles et aux individus ou à l'Église. Cette attitude de Jésus est notre espérance dans un monde qui mine la liberté de l'homme, dans les systèmes libéraux qui la galvaudent ou des tyrannies qui la suppriment. Jésus nous ouvre la route d'une liberté qui sait s'opposer à tous les abus. L'arbre généalogique de Jésus. Les fils de Dieu rejoignent la fragilité de notre chair. Un flash sur Jésus et son origine humaine. En introduction des deux généalogies du Seigneur, transcrites par Luc et Matthieu, livrées de l'origine de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham, Évangile de Matthieu 1, 1 à 16, suit toute la généalogie de Jésus. Et Jésus, en commençant son ministère, avait environ 30 ans, étant fils, comme on le pensait, de Joseph, fils d'Élie. Évangile de Luc 3, 23 à 38. Ces deux généalogies, même si nous n'en comprenons pas pleinement l'agencement compliqué, comme pour tout arbre généalogique, et surtout pour celui-ci avec la loi du Lévirat, ces deux généalogies de Luc et de Matthieu enracinent Jésus dans l'homme. Jésus s'enracine donc à travers les deux généalogies de Luc et de Matthieu dans notre race humaine. On comprend alors l'enthousiasme des verriers du Moyen-Âge qui ont traduit cette espérance de l'homme dans la montée vers la lumière de l'arbre des Jessé. Trois fleurs s'y épanouissent, Joseph, Marie et Jésus, l'homme qui nous réconcilie avec Dieu dans la lumière. Mais cet homme fut tissé de la même étoffe charnelle que nous tous, dans les ventres de sa mère. En lui, son bien-aimé, Dieu rejoint la fragilité de notre chair. Il fait vraiment partie du vieux tronc pécheur et comble notre espérance. Face au désarroi du monde d'aujourd'hui, ne faut-il pas prendre chaque jour le temps de la méditation sur l'Évangile? Les mystères du rosaire nous offrent des méditations toutes simples. Il s'agit de s'imprégner des principes de Jésus et de chercher à reproduire ses attitudes. Qui mieux que la Vierge Marie, Mère de Jésus, pourrait nous initier à cette œuvre que Jean 23, le Pape, a exprimée ainsi? Et si l'on vivait l'Évangile? Ces méditations veulent nous aider à réaliser ce rêve. Comme un rêve de Dieu, elle est nôtre.